Le journal Estelle Herman.
Bonjour à toutes et à tous. Le report de l'ouverture de la patinoire de Moutier de mi-septembre à mi-octobre est justifié. C'est ce qu'assure le président du conseil d'administration de Prévost-Glace. Jacques Stalder revient dans quelques instants sur les réactions courroucées des sociétés sportives utilisatrices et de certains élus au conseil de ville de Moutier. Le feu l'avait détruit, mais Notre-Dame renaîtra de ses cendres. Une conférence à Tavannes parlera de sa reconstruction. La Suisse y contribue aussi, vous l'entendrez. Il sera interdit de se dissimuler le visage en public en Suisse. Le Parlement a accepté ce matin un projet de loi du gouvernement. Celui-ci met en œuvre au niveau fédéral l'initiative dite anti-burqa. Au menu de la météo pour aujourd'hui, du soleil et un temps qui se réchauffera au fil de la journée. Demain, c'est un temps assez ensoleillé qui nous attend à nouveau, avec toutefois quelques passages nuageux et quelques averses en fin de journée. Reporter l'ouverture de la patinoire de Moutier à mi-octobre au lieu de mi-septembre dès l'an prochain. La proposition formulée vendredi dernier par Prévost-Glace a provoqué de vives réactions au sein des sociétés sportives utilisatrices d'une part, mais également au conseil de ville de Moutier lundi soir. Face à ces critiques, le président du conseil d'administration de Prévost-Glace appelle au calme. Pour lui, les arguments en faveur d'une ouverture reportée de la patinoire sont autant de nature économique que technique. Jacques Stalder.
Ce qui a déclenché ce problème, c'est qu'on a eu une diminution des subventions de la ville de Moutier pour la patinoire de 25 000 francs. Donc ça a posé un premier problème. Après, on sait tous que l'électricité va prendre l'ascenseur. On a pris 20% en 2023, on va reprendre 20% en 2024. Donc ça veut dire qu'à la place de demander une aide auprès de la ville de Moutier, on aura un manque de 45 000 francs, puis c'est pour ça que nous, on tire la sonnette d'alarme pour essayer de trouver des solutions. Le but, c'est pas de faire en sorte que le HC Moutier soit puni. Mon fils, il joue dans la première équipe du HC Moutier, donc c'est pas moi qui vais punir mon fils. Mais je pense qu'au niveau financier, ça pose un très gros problème, puis au niveau technique, c'est extrêmement compliqué de faire de la glace le 12 septembre. On a commencé de faire la glace le 5 septembre, il faisait 28 degrés dehors. On doit amener la glace à moins 8. Donc c'est pour ça, vous avez vu, qu'Adlémont, ils n'ont pas pris le risque de peur d'avoir des soucis avec leur compresseur. Voilà ce qui s'est passé.
Prévost-Glace milite pour une ouverture à la mi-octobre de toutes les patinoires de la région avec une adaptation des championnats de hockey. On en reparlera dans notre édition de 18h. La fermeture de la patinoire au printemps, elle, pourra être reportée de quelques semaines en compensation. Jacques Stalder l'assure, fabriquer de la glace à la fin du mois de mars est bien moins compliqué qu'au début du mois de septembre. Le conseil de ville de Saint-Imier se réunit ce soir. Il sera notamment question de transport public, plus précisément du transport en bus des écoliers qui habitent sur les hauteurs à l'envers côté Savanière. Actuellement, la vingtaine d'enfants concernés est acheminée à Saint-Imier par les parents, lesquels sont défrayés par la commune. Mais la situation pourrait évoluer. Olivier Zano.
C'est que le défraiement octroyé aux parents pourrait exploser. Jusqu'ici, on parlait de 1320 francs par année et par enfant. Le montant pourrait à l'avenir augmenter à près de 3000 francs. C'est ce qu'ont appris les autorités de Saint-Imier après discussion avec l'inspectorat scolaire du canton. À ce prix-là, autant réfléchir à la mise en place d'un service de bus, solution écartée dans un premier temps en raison de son coût. Le conseil de ville de Saint-Imier se prononcera donc ce soir sur un crédit supplémentaire de 53 000 francs environ. Concrètement, il permettra d'assurer deux liaisons en direction de Saint-Imier le matin, deux allers-retours pour rentrer à midi et un trajet pour rentrer sur la montagne de l'Anvers en milieu d'après-midi. Le minibus évitera de traiter les cas de manière individuelle, comme c'est la règle actuellement. Les commissions scolaires et des finances ainsi que le conseil municipal préavisent favorablement le projet. Décision du législatif imérien ce soir.
Merci Olivier. Compte rendu de cette séance du conseil de ville de Saint-Imier dès ce soir sur notre site internet et demain dans nos journaux du matin. Comment reconstruire Notre-Dame de Paris? La question était sur toutes les lèvres au moment de l'incendie. L'Ignome Jura-Bernois, la Fêtière du Bois, accueille demain à Tavannes une conférence sur le sujet. François Calam, le fondateur de Charpentiers sans frontières, prendra la parole. L'association avait réalisé une expérience en juillet 2020. Ils avaient prouvé qu'il était possible de reconstruire le monument historique avec des méthodes d'origine. Plusieurs Suisses étaient impliqués dans ce travail. Les explications de François Calam.
Dans notre groupe, nous avons la chance d'avoir notamment un artisan de réputation internationale qui est Serge Thurberg, qui est un jurassien bernois installé à Malraye et qui forge parmi les plus beaux outils qui existent en Europe actuellement. Et il a participé à cette expérience de juillet 2020 et il a ensuite fourni à une partie des ouvriers qui carissent réellement Notre-Dame, il a fourni des haches d'un type très spécial. Donc il a participé étroitement à ce travail. Nous avons également un autre charpentier suisse qui est Paul Zandt, qui est installé en France dans le Doubs, qui a lui-même réalisé une partie du travail sur certaines pièces de la nef de la charpente. C'est un travail international, on y tient beaucoup, c'est l'esprit de Charpentiers sans frontières. Des gens de tous les pays, des femmes, des hommes, des générations se mélangent. Et ainsi, le savoir se transmet, les expériences se partagent, au-delà des langues, au-delà des cultures, et c'est le sens de notre démarche.
François Calam abordera justement le fonctionnement de ces méthodes ancestrales et leurs avantages lors de la conférence à Tavannes. Il a visité plus de 100 pays. Bastien Racine est un vrai globe-trotteur. L'habitant de Malraye s'est pris de passion pour le voyage lorsqu'il avait 19 ans. Il s'est également rendu dans des pays en conflit ou alors en situation politique et sociale tendue, comme en Syrie. Bastien Racine.
En Syrie, j'étais allé parce que j'avais vu un blogueur norvégien qui était allé quelques mois avant que j'y aille. Il a montré qu'en fait, il y a certaines zones où la guerre était finie et puis il y avait plus de danger. C'est un pays que ça faisait un moment que je voulais aller, puis je me disais toujours que je vais attendre la fin de la guerre. Après, il y a toujours des zones en conflit, mais de plus en plus de zones touristiques sont rendues plus sûres. Puis du coup, là, j'ai pu aller sans problème. Puis par exemple, quand j'étais dans la ville de Damas, en Syrie, dans la capitale, on pouvait se promener la nuit sans aucun danger. On va pas dire que tout le pays est sûr, hein. Mais je me sentais plus en sécurité là que par exemple à Rio, au Brésil, ou de certains autres endroits.
Pour sa prochaine aventure, Bastien Racine prévoit de partir en Érythrée au mois de décembre. L'interdiction de se dissimuler le visage va pouvoir entrer en vigueur. L'initiative populaire a été acceptée par 51% des votants en 2021. Le Conseil national a mis sous toit la loi d'application ce matin. Il sera interdit de se cacher le visage dans les lieux publics ou accessibles au public. Mais toute une série d'exceptions est prévue, par exemple dans les lieux de culte, pour garantir sa sécurité ou à des fins artistiques. L'Union démocratique du Centre était l'un des seuls partis à soutenir l'initiative populaire. Elle est aujourd'hui satisfaite de son application. Michael Buffa, conseiller national UDC.
Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une loi au niveau fédéral qui soit mise en place pour appliquer cette initiative. Aujourd'hui, on voit que c'est le cas. Donc, je pense que oui, effectivement, on respecte la volonté de la population qui ne veut pas qu'on puisse se dissimuler le visage sur l'espace public.
Pour vous, ce n'était pas une option de finalement laisser chaque canton décider comment appliquer la loi?
Non, je pense que ça aurait été trop compliqué d'avoir 26 législations différentes. Je pense qu'il fallait vraiment un cadre uniforme au niveau suisse pour appliquer cette loi afin que, par exemple, les personnes qui viennent de l'étranger, les touristes ou comme ça, ils ne soient pas totalement désorientés.
Les Verts et quelques libéraux radicaux ne voulaient pas de cette loi d'application. Ils ont refusé d'entrer en matière. Les explications de la conseillère nationale verte, Nathalie Imboden.
Alors c'est clair, on respecte la décision du peuple, ça veut dire on doit mettre en vigueur maintenant la décision. Nous on s'est opposé sur la question qui va appliquer. C'était aussi discuté avant la votation que c'est les cantons qui doivent mettre en œuvre maintenant cette décision. Nous on trouve toujours que c'est mieux de rester sur cette ligne parce qu'il y a quand même des différences entre les cantons et on avait promis de le faire dans ce sens-là. Maintenant la Confédération et le département a changé. Et la majorité a décidé de faire une application, une mise en œuvre sur le plan national. Et ça, on voulait rester sur la ligne qu'on avait avant.
Un dossier réalisé par Marie Vuillemier. La loi prévoit que les personnes qui se dissimulent le visage en public risquent une amende jusqu'à 1 000 francs. Le développement du réseau routier doit aller de l'avant. Le Conseil des États est entré en matière ce matin sur des montants demandés par le Conseil fédéral. Ils concernent des projets d'extension de l'étape d'aménagement 2023 et d'entretien des routes de 2024 à 2027. Près de 5 milliards de francs sont ainsi demandés pour les projets, alors qu'un peu moins de 9 milliards de francs seront nécessaires pour l'entretien des routes. Ce matin, Les Quotidiens annonçaient que ce n'était plus qu'une question de semaines. C'est maintenant définitif. Tamedia supprime 28 postes en Suisse romande. Une annonce faite peu avant midi par l'éditeur. Cette réorganisation concerne 24 heures et la Tribune de Genève. Des sanctions contre les femmes renforcées. Le Parlement iranien a approuvé aujourd'hui un projet de loi discuté depuis plusieurs mois. Celui-ci renforce les peines contre celles qui ne portent pas le voile obligatoire dans les lieux publics. Une mise en œuvre qui intervient alors que le gouvernement a durci le ton ces derniers mois et qu'un nombre croissant de femmes sort tête nue, surtout dans les grandes villes de la République islamique.
RJB, il est midi 26.
Sport. Young Boys n'a pas démérité lors de la première journée de Ligue des Champions, mais ça n'a pas suffi aux hommes de Raphaël Vicky pour accrocher Leipzig hier au Wankdorf. Ils se sont inclinés 3-1. IB a pu mesurer l'écart qui les séparait d'une belle cylindrée allemande. Le défenseur d'IB, Loris Benito, estime après ce premier match que son équipe a encore beaucoup à apprendre.
Surtout aux balles arrêtées, on leur a donné trop d'occasions aux balles arrêtées. C'est clair, ils ont des très bons tireurs, mais quand même, on était trop passifs sur les ballons arrêtés. Et après, certains choix. Je pense au 3-1 qu'eux, ils marquent sur un contre-attaque. Une minute avant, on a le ballon et on a peut-être une occasion pour marquer le 2-2. Voilà, c'est ces petites choses qui font la différence sur ce niveau. Et on va certainement apprendre de ce match.
Young Boys devra notamment améliorer ses entames de match. Les Bernois sont passés totalement à côté des premières minutes de la rencontre. Le gardien Anthony Ratchopi en est conscient.
Ouais, je pense qu'au début, on avait un peu peur les 10 premières minutes. Mais après, comme vous avez pu le voir au fur et à mesure du temps, on s'est remis dedans.
Il faut utiliser clairement, Anthony, ce match aujourd'hui comme expérience pour progresser pour la suite, parce que j'imagine qu'on apprend beaucoup aujourd'hui.
Oui, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est le premier match, c'est une expérience et il faut apprendre de ce match-là et puis on va retourner au travail pour faire mieux pour les autres.
Et le prochain, ce sera un match à Belgrade. C'est déjà, on ne va pas dire un match décisif, mais c'est déjà un match très très important si on veut viser notamment la troisième place du groupe.
Oui, bien sûr. Après, on sait que tous les matchs en Ligue des Champions sont importants, que ce soit Belgrade ou Manchester City aussi. Donc, on sait que là-bas, c'est une ambiance particulière. Donc, on va tout faire pour ramener les 3 points.
Young Boys disputera son prochain match de Ligue des Champions dans 2 semaines sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est la fin de cette édition. Bon appétit.